Salut à tous et bienvenue dans les Guillons de l'info. Hein. Enfin, on peut commencer après avoir fait taire Philippe. Merci Philippe.
Ah ben bravo, c'est pas la peine de me faire taire, c'est pour en plus dire qu'il a fallu me faire taire.
Salut. Ah ben on sait qu'il est là au moins ce soir. Et ce soir, nous avons aussi surtout un invité, un passionné de trial, président du Trial Club de Toulouse, que nous avons déjà eu dans ses murs. Passionné, capable de faire partager cette passion avec sa famille d'ailleurs. Et je le remercie d'être là. Bonsoir Christian Pernaud.
Bonsoir.
Donc vous l'avez compris, nous allons parler trial tout à l'heure. Dao, de quoi allons-nous parler nous tout à l'heure après ?
Ouf, deux, trois petites choses.
Deux, trois petites choses, quelques infos par-ci, par-là.
Deux motos, en fait, qui existent depuis un petit moment, qui fonctionnent autrement qu'avec de l'essence. De mon petit billet d'humeur. Et puis aussi, quelques petites nouvelles sur ce que certains souhaitent depuis longtemps, abroger un peu ces lois de limitation de cheval.
Des chevaux.
De cheval.
Trop bien. Ouais. Enfin bon, ça va, si ça avait servi. Si ça
oui, enfin bon.
De sales chevaux, tout ça.
Vous allez voir, c'est pas mirobolant, mais bon.
Ça sera une petite avancée. Philippe, tu nous as amené.
Alors bon, moi j'ai amené.
Encore une américaine.
Non, profitez. Je vais parler de française. Alors j'ai de bonnes nouvelles au sujet de Voxan, déjà.
Ah.
Et ensuite, j'ai un article qui est paru là dans le nouveau Café Racer. Très intéressant, puisque The Pat nous avait fait part de la Tessie de chez Bimota, qui ressortait avec sans fourche et avec un système à parallélogramme et rotule. Et bien, il y a un inventeur français qui fait ça depuis les années 70 et qui a inventé un autre système qui marche très bien. Et c'est les Chinois qui vont le fabriquer. Voilà, parce que nous, on est tellement intellectuels et tellement malins que nous, on n'a pas fait. Mais il a quand même fait, en plus, de très très bons résultats en compétition. C'est un système qui était vraiment développé pour la compétition.
Ceci dit, n'en dis pas trop maintenant, tu en gardes un petit peu pour tout à l'heure.
Ne vous inquiétez pas, je suis rempli.
Et on commence l'émission, comme à notre habitude, par le billet d'humeur. Et ce soir, c'est le billet d'humeur de Dao.
Ouais, petit billet d'humeur. J'en ai deux. Il y en a un, c'est plus un...
Ça devient la mode, hein, c'est les doubles billets d'humeur.
Comme ça, tu peux dire que t'es content et en même temps que t'es pas content.
D'accord.
Tu vois, c'est facile. On va pas. Comme ça, on te traite pas de mec qui gueule tout le temps. Ou...
Oui, oui, tu n'es pas comme moi. Voilà, en gros. C'est pour te différencier.
Mais on n'est pas pareil. Moi, je parle. Moi, je parle pas.
Vas-y, d'abord, on t'écoute.
Alors, il m'est arrivé un truc la semaine. Enfin, il m'est arrivé. Tu vois comment je parle. En plus, c'est même pas à moi que c'est arrivé. C'est à des potes à moi. Donc deux. Je vais pas les citer pour pas qu'ils se reconnaissent.
Ils vont pas se reconnaître du tout, ils écoutent. Hein. Vu que c'était la semaine dernière, à moins qu'ils soient Alzheimer, à mon avis, ils vont se reconnaître.
T'as tout compris, Philippe. Et ouais, ils se sont cassés la gueule la semaine dernière. Vous savez, il y a eu du brouillard givrant.
Alors même cette semaine, d'ailleurs.
Même cette semaine. Alors, c'est quoi le brouillard givrant? Vous en avez fait l'expérience. Hein. Vous roulez à 50 km/h et... Toutes les 10 secondes, vous êtes obligé de frotter votre visière pour enlever le givre qui est dessus. La couche de glace. Quand vous regardez votre main, votre gant, il est tout blanc.
Et bon. Vous n'avez plus de doigts.
Bon, ça, c'est un problème qu'on rencontre quand il fait froid. Et l'autre problème, c'est la route froide et les pneus froids.
Là, franchement,
inadéquation.
On doute un peu en hiver que la route va être froide.
Adéquation qui est pas bonne du tout. Donc, tu sors de chez toi, tu arrives à un stop.
Et tu t'arrêtes pas.
Tu veux tourner à droite, bien sûr. Donc en démarrant, tu tournes et puis tu prends ton inclinaison habituelle et choup.
Et paf la moto. Ouais, même ça arrive.
Donc voilà. Et je suis sûr que plein de gens ont pensé à des idées phénoménales et j'en ai entendu une. C'est enfin demander à la préfecture, à l'État
de nous chauffer la route.
De nous chauffer la route.
Non mais pas con, parce qu'ils sont en train de râler à propos. Vous en parliez la semaine dernière à propos des autoroutes avec 2 cm, plus personne ne roule, ils trouvaient anormal d'être bloqués. Non mais c'est ça, il faut qu'ils chauffent la route, c'est con.
Tu mets des plaques résistantes sous le goudron et ça réchauffe la route.
Écologie même par là, je pense que c'est quand même une petite catastrophe.
Mais voilà, bon. Ok, non.
On peut mettre le feu aussi.
Oui.
Fait passer des jerrycans et des mecs avec des essence, et on y met le feu le matin.
Ça s'appelle comment ce spectacle là, du motard qui saute à travers les flammes? Bon, non, vous l'avez compris, c'est un peu idiot de ma part, mais je voulais en venir à un autre point, qui celui-là, alors ça date pas d'il y a longtemps et la mutuelle des motards est en train d'essayer d'en parler un peu partout. Ils vont enfin, et on s'y attendait quand même avec la baisse des tués sur la route, une meilleure sécurité au niveau de la moto, la mutuelle des motards baisse ses prix.
Non.
Et si.
Délire.
Alors j'ai pas fait le calcul pour voir si ils arrivaient enfin à être en dessous des prix des autres.
J'ai pas osé la faire.
Mais celle-là, je vous laisserai faire. Je vous dis quand même la bonne nouvelle, et moi j'en suis content parce que bon, ça me fait quand même 10% d'économisé par rapport à l'année dernière.
Ah, quand même.
Oui.
Non, mais t'es... non, mais 10% c'est bien.
C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Alors, au début, j'ai vu ça avec, avec recul, et je me suis dit, elle est où la couille?
Eh ben.
Pourquoi veux-tu qu'il y en ait une?
Parce que ça arrive souvent, tu sais, quand on fait des. Enfin, ça s'appelle les effets d'annonce.
Quand donc, tu baisses le prix d'un côté.
Au début, c'est vrai, j'ai eu un mauvais esprit, j'ai pensé qu'ils avaient baissé toutes les garanties supplémentaires.
Ah oui.
Tu sais?
Donc, il y avait moins de garanties, donc c'était moins cher.
Donc les garanties supplémentaires optionnelles que tout le monde ne prend pas. Et donc du coup, je me suis dit, merde, moi, je vais me retrouver en fait à payer la responsabilité civile et puis le truc de base aussi cher qu'avant. Bon, il se trouve que c'était pas vrai. Les diminutions, les baisses se retrouvent partout. Pour la base, vous avez 10% de réduction par rapport à l'année passée. Et sur toutes les options, alors là, ça varie de 13 à 20% et voire 50%.
Ah, c'est pour, ça que j'arrive pas à vendre, celle-là.
Pour les sides et tout ça, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et la sécurité est énorme. Donc, si tu veux, le facteur risque est moins important, donc tu fais payer moins cher.
C'est vrai qu'un side tombé parce que tu t'es un peu raté au freinage, arrive moins souvent.
Voilà, exactement.
C'est surtout quand les pneus sont froids.
Donc voilà, donc là il faut aller jeter un coup d'œil sur le site, c'est afdm.free, n'importe quoi, afdm.fr, tout court. Et vous verrez en fait les différentes diminutions qu'il y a en fonction des options, en fonction des différentes options. En ce qui concerne les 125, il y avait une rigidité un petit peu jusqu'à aujourd'hui en fait de la part de AMDM par rapport à ça, de l'AMDM, ouais.
Ça t'a dit AFDM tout à l'heure.
J'ai dit AFDM, hein.
Oui.
AMDM.fr.
D'accord. Voilà.
AFDM, c'est ce qui concerne la formation des
moteurs. Oui,
motards.
C'est pour ça.
Ouais.
C'est mieux ce qui me semblait, mais je vais.
Oui, donc avant, il y avait l'aménagement pour l'offre 125. Tu pouvais le prendre, mais il y avait conducteur exclusif. C'est comme ça que ça se passe en moto. D'accord. Mais en fait, il la change, puisque la 125, si t'as un couple où tous les deux ont le permis.
C'est intéressant. Chacun prend la 125.
Ouais. Ce serait intéressant que chacun puisse prendre le scooter ou la 125. Et oui. C'est le cas, donc c'est nouveau.
Donc tu peux le prêter à ta femme.
Si tu peux le prêter à ta femme ou à ton mari.
Ah ouais.
Soit
ça
pas.
Peut être le contraire aussi. Hein.
Tout à fait, oui. C'est une évidence.
Mais à mon avis, je crois que ça ira plutôt dans ce sens-là.
De quoi?
Que la femme prête le 125 à son mari. Et oh, bah, il a cassé son gros roster.
Voilà.
Oh, tu vois, t'es méchante. Non, parce que c'est pas vrai.
Le tout petit bémol que je mets donc à ce billet de bonne humeur, c'est ça concerne les offres cyclo. Donc oui. C'est un grand défaut dans toutes les assurances, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. Mais il se trouve qu'avec la mutuelle, c'est depuis 2004, je crois, qu'ils étudient la question. Enfin, qu'ils ont dit qu'ils allaient étudier la question pour essayer de proposer qu'on appelle ça,
une solution.
Ils
cherchent encore.
Et a priori, j'ai pas réussi à trouver de
solution pour les cyclos. De toute façon, vu ce qui reste comme cyclo, il n'y a pas trop de solutions à chercher. Ah, pour les scooters aussi, tu veux dire? Pour les 50, quoi.
Ce que j'appelle les cyclos, c'est c'est les moins de 50. Donc en gros, c'est les enfants jusqu'à.
Ah, je plaisante.
Ah, je sais pas. Là, tu souriais pas, donc.
Ah, mais c'est pour que je souris, mais c'est bon.
Eh, c'est comme les smileys sur internet. Si t'en mets pas, on te prend en sérieux.
Ouais.
Donc voilà, donc pour les cyclos, pour l'instant, il n'y a que les enfants de motards qui sont assurés à la mutuelle, qui posent pas de problème pour les,
c'est
pour les assurés. Bon.
Non, mais je peux.
Donc
c'est des assurances qui sont très particulières, faut être honnête, pour les cyclos. Ils sont très très durs à gérer et à suivre.
Mais oui, évidemment.
Et c'est pas évident, quoi. Il y a beaucoup de choses à contrôler, surtout par rapport au BASR et à la formation réelle du jeune qui part en cyclo.
Quelle formation?
Ben justement, il n'y en a pas. C'est bien ça le problème.
Donc, sans transition, l'agenda. L'agenda, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Et puis, on profite de l'occasion pour dire bonjour à The Pat. Salut The Pat.
Salut tout le monde.
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bon,
t'es arrivé
un petit peu en retard.
Mais non, il a un Guzzi.
Un Guzzi, ça ne tombe jamais en panne.
Non, mais ça arrive lentement.
Donc nous sommes.
C'est un mec qui roule en Harley qui dit ça. Vous allez bien?
Nous sommes déjà dans l'agenda.
En plus, que je sais que ces photos immondes que t'as devant toi, non mais c'est pour tes pauvres.
Ça y est, il arrive, il fout le bordel.
C'est justement pour faire un parallèle à ce que tu as présenté au sujet de Bimota.
La Bimota, ouais.
Donc pour les curieux, je rappelle qu'il se passe un truc très original à Lyon ce week-end.
Ce week-end, ouais.
Ça fait un peu loin, c'est sûr. Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. En tout cas, on aimerait bien avoir des retours pour ceux qui ont vu ça. Le premier enduro indoor, ça paraît fabuleux, c'est le 10 février, c'est à l'Euro Expo.
Enduro indoor, quad indoor.
Et c'est 28€ l'entrée. Voilà, sans transition, on passe direct au trial.
Ça
va être la question.
Merci de m'en.
Et donc le 16 février, c'est à Pau qu'il faut aller donc.
Effectivement, le 16 février, donc comme tous les deux ans, le trial indoor de Pau. Beau trial, d'habitude, avec des pilotes importants. Je crois qu'il y a Cavestani, je crois qu'il y a Raga qui doit venir, des grands pilotes, avec une organisation par le motoclub de Pau et comme présentateur le dynamique Bernard Estripeau.
Voilà, qu'on connaît bien sur Toulouse. Voilà, puis, merci Bernard.
Voilà, notre serviteur comme directeur de course.
D'accord. C'est pas un trial qui fait partie d'un championnat ou de quelque chose, c'est vraiment du trial spectacle.
Voilà, c'est du trial spectacle. Bon, il y a une connotation sportive puisqu'il n'y a pas d'événement spectacle à proprement dit dans le trial. Mais ce n'est pas un championnat du monde. Donc c'est vraiment un spectacle où les pilotes viennent et se lâchent. C'est-à-dire qu'ils font vraiment des choses qu'ils ne feraient pas en compétition parce que l'enjeu est beaucoup moins important.
Impeccable. Donc il faut y aller, c'est à Pau, c'est le 16 février prochain. Au Zénith de Pau, donc c'est la porte à côté, il faut aller voir ça. Pour les amateurs de bourse d'échange, on en a déjà parlé le week-end dernier, mais mercredi dernier.
C'est enregistré les gens, force. Hein.
Non, c'est parce que quand je viens ici, c'est la récré, donc forcément, c'est comme si c'était le week-end.
Direct. Nous sommes bien jeudi 12 décembre 1976.
Ça y est, c'est
que des nouvelles fraîches.
Bon, soyons sérieux 5 minutes. Le 17 et 18 février, c'est à Blagnac que ça se passe. C'est à Blagnac qu'il faut aller au gymnase Guillaumet pour la bourse d'échange et une expo organisée par le Blagnac Moto Rétro. Juste avant ça, le 16, il se passe quelque chose aussi. Rien à voir avec
la moto.
Rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir avec les bourses de change, mais c'est quand même un rendez-vous important pour la FFMC le 16 février prochain.
Eh bien, écoute, a priori, la FFMC 31 fait son assemblée générale le 16 février. Où là, tous les motards adhérents et puis ceux qui veulent voir ce qui se passe peuvent y assister. C'est le bilan de l'année qui vient de s'écouler et la mise en place de la nouvelle équipe.
Voilà, ce sera le 16, ce sera sur la piste motocycliste de Candie, dans la salle commune, à partir de 21h.
J'ai cru voir...
À côté des chiottes, quoi, parce qu'il faut la salle commune, moi je la connaissais pas, je sais pas...
De toute façon, les salles, il n'y en a pas 50 000 non plus à
Candie. C'est un gros bâtiment, on n'imagine pas qu'il y a une salle à l'intérieur qui sert à autre chose que...
Non, c'est oui, c'est là.
J'ai vu dans les boîtes aux lettres arriver les convocations pour la mutuelle aussi.
Oui, c'est arrivé. On en a parlé tout à l'heure.
Ah, vous avez parlé tout à l'heure.
De la mutuelle.
Il ne fallait pas être en retard. Bon, d'accord.
Voilà. Non, c'est vrai, non, il faut être à l'heure un peu.
Donc, le 17 et 18 mars, pour les Toulousains, on remet ça.
Un motard en retard qu'un motard mort.
C'est vrai.
Certes, à
choisir, oui.
Bon.
On se sent mieux déjà. Donc le 17 et 18 mars, on remet ça sur Toulouse. Ce sera à Sesquières. Et c'est la 22e bourse d'échange organisée par le Cercle T, bien sûr. Entrée gratuite. C'est à Sesquières le 17 et 18 mars prochain.
Une grande bourse en général où il y a tout le temps.
Une bourse bien sympa.
Oui, tout le temps plein d'exposants.
Ouais. On reviendra
jolie machine.
Mercredi prochain sur certains événements dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'ils sont importants. Mais là, on va passer le petit morceau de musique. Puisque nous donnerons la parole à Christian juste après. Donc là, c'est juste un hommage parce que vous savez qu'à partir du 1er, on ne fume plus nulle part. Donc, Dieu est un fumeur de Havane.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait le même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux
c'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. De toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière, je veux la voir briller au fond.
De retour dans les guidons de l'info, et c'est vrai qu'à partir du 1er, les fumeurs devront penser aux non-fumeurs. Hein.
Non, ils vont surtout payer. Ils vont payer grave.
Mais non.
135 euros, salade. Ils ont reçu les carnets à souche, les mêmes que pour les voitures.
Sans transition, on est là pour parler trial ce soir avec notre ami Christian Pernaud, que je le rappelle, qui est président du Trial Club de Toulouse. Et j'aimerais dans un premier temps que tu nous fasses un petit bilan sur cette année 2006 et éventuellement sur les événements qui ont marqué le trial.
Alors au niveau du trial compétition, puisque bon, à un moment donné, puisqu'on veut faire du trial, il faut à un moment donné se mesurer à d'autres. Donc au niveau de Midi-Pyrénées, de la région Midi-Pyrénées, on a eu 7 épreuves cette année. Donc ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Pour cela, on s'est un petit peu marié, fiancé, disons, ou accoquiné avec la ligue voisine d'Aquitaine. Et on est arrivé à faire bouger les pilotes régionaux, que ce soit donc les Aquitains ou les Pyrénéens. Et on est arrivé à faire de très 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 belles manifestations, avec un taux de pilotes raisonnable, disons 60-65 pilotes.
C'est pas mal, oui.
Ouais, en sachant qu'on aimerait bien arriver à 90. Mmh. Ça, c'est une autre histoire. Donc,
faut prendre aussi l'Auvergne. Trois régions qui devraient y arriver, parce que les Auvergnats sont assez bien fournis
ils ne sont pas très très nombreux par contre.
Non, je pense que ce qu'il faut, c'est surtout démocratiser la discipline et simplifier les règles, et surtout arriver à ce que le trial soit plus uniquement un sport d'élite, mais abordable à tous. Et là, on est en train justement de faire le nécessaire, je vous en parlerai un petit peu plus tard, à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est de cette année, il y a eu des événements importants dans la région. Un championnat de France senior à Lourdes, donc, avec les plus grands Français. Une belle épreuve. À Ciergo, on a fait trois ou quatre manifestations. dont un champion de ligue, plus de deux Open Free dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu aussi Castres, mort dans la Bessonie, enfin pas mal de choses dans la région.
Donc énormément de choses à dire pour 2007, je suppose aussi, puisqu'on va être dans cette continuité. Il me vient une question, on a vu l'an dernier arriver le 4 temps en compétition, en trial. Est-ce que cette année on a senti une évolution?
Alors le 4 temps, le 4 temps, bon, ben, toujours le même problème. On a essayé de mettre des 4 temps, soi-disant, pour moins polluer, de façon pollution, disons, chimique et surtout pollution sonore. Et on est arrivé exactement au problème à l'effet inverse, parce qu'au niveau sonore, ça ne fait pas quoi.
Ouais, il manque la douce musique du moteur et ça fait partie du spectacle.
Ouais, quand on est sur une moto 4 temps, quand on envoie des gaz, bon, c'est vrai que c'est super, c'est génial. Par contre, tout l'environnement, les gens qui sont les voisins,
autour,
les
ouais. Ouvrains,
bon, ben, ils
aiment
pas trop, quoi.
Ils aiment autant le deux temps.
Ouais, oui, oui,
tout je comprends. Fait.
Surtout que, bon, la particularité de notre sport, en plus de ça, c'est qu'on est toujours à bas régime.
Ouais.
Et on envoie pendant 2 secondes, 3 secondes, quoi, c'est tout, hein. Ou alors, à part quand c'est une grande montée, mais sinon, c'est toujours des temps courts. Et les bruits des 4 temps, même sur des temps courts, sont relativement agressifs. Donc, bon, par contre, ce qu'on peut voir, on vient de passer le 20e anniversaire du Trial Indoor, puisque c'était le 20e, là, le 11 ou le 12 janvier, je ne me rappelle plus. On s'aperçoit que les premiers, globalement, on roule quand même à 4 temps. Quoi. Mmh. Hein, le 4 temps n'est plus en retard au niveau de la performance sur le 2 temps.
Il ne faut pas être manchot quand même sur la machine, je suppose.
Non, non, c'est sûr.
Moi, je regrette l'époque où on entendait le décompresseur dans la descente. Oui. Tu sais, c'était beau ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Les plus jeunes, ils ne connaissent pas.
Quelle était l'utilité de décompresser dans la descente?
C'était ton frein moteur. Tu ne freinais pas, tu décompressais en fait. Et du coup, tu entendais les motos. C'était extraordinaire. C'est vrai, tu as connu ça.
C'est vrai, c'est vrai.
C'était super.
Tu nous en as déjà dit un petit mot tout à l'heure, donné un avant-goût. Tu parles d'une nouvelle discipline, l'Open Free. Qu'est-ce donc ?
Alors l'Open Free, c'est une discipline qui est dérivée du trial. On ne veut absolument rien enlever ou on ne veut pas faire disparaître le trial. Disons qu'on veut, on voudrait démocratiser la discipline et permettre, disons, à tout un chacun de venir passer un dimanche, de venir passer un week-end, puisqu'on peut faire des épreuves sur plusieurs jours avec ce type d'épreuve, et venir faire de la moto de franchissement, c'est-à-dire faire du franchissement, pour se faire plaisir, à son niveau, à son rythme. En sachant que, au lieu de passer des portes de couleurs qui vont correspondre à une difficulté et à un réseau de difficultés. Là, on va avoir une zone. Donc, la zone, c'est un endroit délimité par une banderole, avec des obstacles à franchir, qui seront délimités par des portes. Mais ces portes, au lieu d'être des portes obligatoires à passer, ce seront des portes qui auront des valeurs. Ça veut dire qu'il y aura des portes à 2 points, des portes à 5 points, des portes à 10 points. Et donc, monsieur trialiste ou monsieur motard viendra, rentrera dans cette zone, et suivant sa forme, suivant son envie, suivant son niveau, eh ben, il engrangera des points. Des 2 points, des 5 points, des 10 points. Et il y aura quand même la notion de pénalité lorsqu'on mettra un pied au sol, 1 point, 2 pieds au sol, 2 points, ainsi de suite. Quand il y aura échec, donc échec, mais le pilote ne perdra pas les points qu'il aura engrangé avant l'échec.
Aux portes d'avant.
Et on pourra se trouver sur une journée donc à avoir un classement au scratch. De là, on pourra faire des classements de marque, des classements d'âge, des classements de féminine, de masculine. On pourra faire tous les classements que l'on veut. Et on pourra même, comme en tennis ou au golf, avoir un classement sur l'année. Donc même si tu fais qu'une seule compétition, bah, à un moment donné, tu auras marqué tant de points. Et on voudrait, et ça a marché, puisque nous avons fait 2 essais de l'Open Free à Sergo, donc au mois d'octobre. Un essai avec des pilotes plutôt jeunes et plutôt vétérans, hein, toutes les couches d'âge. Et le week-end d'après, on a fait avec des pilotes internationaux, puisqu'il y avait des Espagnols qui sont venus, des pilotes français au niveau championnat du monde. Et franchement, on a reçu vraiment un gros accueil très très positif. Tant et si bien que bon, dans notre fonction, je suis donc à la Commission nationale de trial. Nous avons donc validé cette discipline en commission. Et cette discipline là existe à part entière. Et nous avons cette année un challenge français qui se met en place avec 5 épreuves. Donc c'est vraiment pour le sport de franchissement. J'appelle pas ça trial, c'est du sport de franchissement. Nous avons maintenant une possibilité, disons, de ramener dans des épreuves tous les pilotes qui trialistes sont des pilotes qui roulent pour eux.
Trialistes du dimanche.
Voilà, de les ramener dans des organisations et que tout le monde se régale.
Qu'ils puissent faire un peu de compétition, se mesurer aux autres. Ouais. Et plus,
voilà. Mais gentiment, à son rythme. Ouais. C'est le but.
Oui, comme ça, ils se baisseront
pas. C'est
la,
l'aspect vraiment ludique du trial. Voilà. Et comme tu le disais, la dernière fois que tu es venu, un sport moto à la portée de tous, qui voilà. doit être à la portée de tous, voilà. de 7 à 77 ans, tu disais.
Tout à fait.
C'est comme les jeux de société, donc faut y aller, faut essayer.
C'est à partir de 7 ans, justement.
Il faut commencer par aller voir déjà.
C'est vrai que c'est un problème quand on n'est pas professionnel, parce que tu franchis une zone, tu vas la franchir aux deux tiers, et puis le troisième tiers, tu vas pas l'avoir, et tu vas marquer aucun point parce que t'es pas arrivé au bout. Donc c'est un peu décourageant. Quoi.
Voilà, c'est décourageant. Donc ça, bon, alors cette discipline, il faut quand même tout dire, c'est que c'est encore une fois Bernard Estrépeau qui est né à la naissance, disons. Et bon, nous avons fait ça ensemble au départ. Et c'est lui qui va parrainer donc le challenge au niveau national. Et justement, je crois qu'il y aura la Mutuelle des Motards ou Autovert, je ne sais pas.
Comme d'habitude, quelques partenaires.
Qui sera un partenaire dedans.
Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Bernard Restrepeau, c'est un grand, grand bonhomme dans l'histoire de la moto, qui a été trialiste lui-même.
Oui. Je crois qu'il doit être à son 200e trial indoor. Hein, et c'est le pape du trial indoor. C'est le monsieur qui trace et qui est appelé à tracer les plus grands trials indoor au monde. Là, après Toulouse, il est parti à Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il va partir en Amérique du Sud, je ne sais plus trop, à l'Argentine ou je ne sais pas où. Il est appelé dans tous les pays du monde pour tracer les trials.
Mais ça veut dire que tu comptes quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des motos de trial qui font pas de trial,
ouais.
quelque part.
Ouais.
Les trialistes du dimanche, il y en a quand même quelques-uns, quoi.
Et c'est encore le même.
Non, pour une fois.
Donc le premier Open Free que l'on a fait, on avait un tout petit peu communiqué dessus, on avait passé quelques coups de téléphone, et on a eu 94 personnes qui sont venues.
Ah, quand même. Ah oui, effectivement. Ouais.
Donc ça a été vraiment, puis des gens qui se sont passionnés, des gens qui ont vraiment cherché à comprendre, qui se sont pris au jeu, et surtout, chose exceptionnelle dans notre monde, des spectateurs qui étaient sur le bord des zones et qui ont enfin compris ce qui se passait.
Ah oui, ça c'est bien. C'est vrai que c'est aussi un des trucs...
Le trial, c'est le sport d'initié. Donc, ouais. Les bouts des pieds au sol, les frottements de trucs, les appuis de poignets, des choses comme ça. Si on est spectateur de base, ben, on ne comprend pas toujours ce que
ça. Si on ne connaît pas les règlements... Ouais.
Donc, très positif. Et vous pourrez en voir deux manches dans notre région. Il y aura une manche le 29 juillet à Lassac. À Lassac, c'est à banlieue de Brive. Et il y aura une autre manche au mois d'août, je crois que c'est le week-end du 15 août, à la Mongie. Et la Mongie, je pense que ce sera la finale.
En plus, ça c'est un qui se passe tous les ans, celui de la Mongie, et qui est quand même... voilà. C'est international, non?
Non, c'est pas international.
Il était pas...
Mais non, il sera national.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Mais à la Mongie, ce sont des sites
vraiment exceptionnels.
Super, ouais.
Alors, aussi, de grandes avancées avec le trial, c'est que nous avons, au niveau donc, du national, réussi à avoir des avancées avec la loi Olin, puisque Mme Olin a été, pas discréditée, on ne pourrait pas dire ça, ce serait méchant, mais a été
désavouée.
Enfin désavouée. Puisque, bon, il était question d'interdire les 5 jours du Verdon.
Ah, carrément.
Oui. Donc, Mme Moller et surtout le préfet de la région là-bas, devant le tribunal, donc, ont été déboutés. Et on a pu donc déjà faire les 5 jours du Verdon. Ensuite, on a pu prendre ça un petit peu comme jurisprudence pour arriver à tout renégocier derrière. Donc, c'est vraiment de grosses avancées pour nous.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de recul que...
On compte sur vous pour continuer dans ce sens-là, parce que ce serait vraiment dommage à cause d'elle de ne pas pouvoir...
Mais il faut faire évidemment appel au bon sens des motards. Hein. Il faut savoir que tous les sports mécaniques sont respectables. Tout le monde a le droit de vivre et de s'exprimer dans son sport. Par contre, bon, il y a quand même des règles à respecter. Et on a tendance à voir à l'heure actuelle beaucoup de gens avec des quads qui n'ont rien de motard ou rien de sportif, qui ont acheté ça comme un gros jouet et qui sont en train de nous pourrir bien la vie parce qu'ils nous font expulser de pas mal d'endroits.
Bah, c'est-à-dire qu'ils labourent bien.
Ils labourent bien, c'est ça.
C'est de l'incivisme total.
Mais ça, c'est un problème de respect de toute façon. Oui. C'est un problème de respect même. Je pense que s'ils ne respectent pas là où ils passent, quand ils passent chez les autres, ça doit être pareil chez eux.
Hein. Et je pense qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils se font. C'est vraiment de l'inconscience.
Ouais. Il faut savoir qu'il y a des clubs de quad qui se forment et qui créent des chartes justement.
Ouais, qui travaillent très
très bien. Ouais, nous sommes tout à fait prêts à discuter avec eux pour arriver à faire des chartes. Bien sûr. Par contre, c'est tous les gens qui sont en dehors des clubs qui roulent entre guillemets en égoïste.
Oui, un petit band des fois aussi et qui font un peu n'importe quoi.
Tout à fait.
rendez-vous important pour le trial, pour finir là-dessus, et c'est dommage parce qu'on parlerait trial pendant toute une heure, sans problème. C'est l'organisation du championnat de France senior à Sierre-Go en septembre prochain.
Voilà, donc la mairie de Sierre-Go nous accueille encore cette année. Avec le site de Pyrénéo. Pyrénéo est un partenaire, c'est un parc d'aventure. Je vous conseille d'y aller, c'est très 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 chouette, très très bien, très, très, c'est à faire. Et donc en collaboration avec eux, nous organisons une manche du championnat de France senior, donc de trial, le 9 septembre. C'est l'avant-dernière manche, donc normalement, il devrait y avoir un beau spectacle. La mairie nous accueille à bras ouverts, puisqu'il y aura des routes qu'on va être obligé de barrer pour arriver à pouvoir faire notre camp de base et tout ça. Pour vous donner une idée, on a dû débroussailler à peu près, le pan de montagne, là, on a dû débroussailler sur 400-500 mètres, pratiquement tout. Et on vous promet des zones et du spectacle grandiose.
Alors, du trial outdoor, et c'est du spectacle gratuit.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller voir.
Voilà. À l'heure actuelle, fleurissent de plus en plus des trials payants. Hein, comme par exemple l'an dernier à Lourdes, c'est un choix de l'organisateur, on n'a rien à dire contre ça. Par contre, nous, on a pris l'option de continuer à ce que ce soit des manifestations gratuites, parce que c'est à quelque part un remerciement aux communes, aux gens et qui nous accueillent et qui nous laissent faire notre sport. Quoi.
À Lourdes,
ça
tout
se paye. Aussi à tout oui. À chacun de découvrir.
Il
n'y
a pas
aussi.
De miracle.
Pas de miracle.
Bah merci Christian, tu es bienvenue. J'espère qu'on te reverra dans cette émission. Voilà. De toute façon, tu reviendras raconter des choses.
Simplement encore un mot pour les jeunes qui ont envie de démarrer, les tout jeunes. Sachez que dans notre club en particulier, nous avons toutes les structures nécessaires pour accueillir des jeunes à partir de 7 ans, même voire 6 ans, pour leur apprendre les rudiments de l'équilibre et du franchissement.
Et ils vous contactent comment, ces gens-là ?
Eh bien, nous avons un site qui n'est pas très à jour.
Mais il y a les coordonnées, donc vous pouvez leur écrire.
Nous cherchons désespérément une personne pour s'occuper de ça.
Ça, et c'est notre, un appel. Voilà,
webmaster trialiste.
Voilà.
Voilà. Passionné
notre,
de trial.
Notre site, c'est toulousetrialclub.com. Toulouse Trial Club, c'est tout attaché. Et .com, donc. Et vous nous envoyez un mail. Le mail m'arrivera. Et voilà.
Et il n'y a pas de problème.
Et tu sais, moi, j'ai découvert le trial, en fait, par un petit stage qui était organisé par un club où les gens venaient et puis on pouvait essayer de faire du trial très basique sans moto. Enfin, on nous prêtait leur moto.
Nous on fait ça.
Et ça, c'est un bon système. Ouais.
Nous avons aussi des motos dans le club pour les enfants, donc. Et on peut faire des journées.
Ça, c'est bien. Ouais. Ça permet de... parce que c'est quand même un achat. Bon, une moto de trial, même si c'est pas les motos les plus chères, c'est quand même... Il faut sortir un vrai chéquier. Donc, c'est un bon système de goûter à ce truc-là et savoir si oui ou non on est fait pour.
Nous avons une demoiselle, une dame qui est maintenant brevet d'État là, dans notre club, qui est Sylvaine Cartier, qui est la championne de France de l'an dernier, qui a passé son brevet d'État, donc, et qui maintenant va s'occuper de l'éducatif chez nous. Donc on pourra même, pourquoi pas, le mercredi après-midi ou le samedi, sur Candy, faire de l'initiation à la moto trial. Et bon, il suffira de nous contacter sur le site et on mettra en place les sessions nécessaires.
Donc affaire à suivre de très très près, je le rappelle, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas noté les contacts, nous écrire lesguidons@free.fr, lesguidons tout attaché au pluriel, @.fr, et on vous guidera sans problème.
N'oubliez pas free entre les deux, entre oui. @ et .fr, parce que sinon ça va, on ne sait pas où ça va.
Oui, mais en général, les gens ils savent ça, non ? Il y en a qui sont capables de le louper,
oh, oui.
@free. .fr.
Toi, tu l'as oublié.
La preuve.
Moi, j'ai
pas
oublié. Tu vois, c'est possible.
J'ai pas oublié que c'était l'heure de la musique.
C'est Mademoiselle K qui va chanter, bah, justement, comme c'était du trial, une chanson qui s'appelle Grimper tout là-haut.
Je suis un homme de
bah c'est pas du tout le même genre que celui de tout à l'heure. Hein.
Non, c'est Michel, il a grimpé tellement là-haut qu'il a passé au titre d'après. C'était Massisteria, ça s'appelle les fils du vice, comme on a pu entendre. C'est pas facile à dire ça, Massisteria,
ah, tu dis
les
Massis.
Fils du vice.
Moi j'ai dit Machis, d'accord.
Non, mais c'est Massis.
Mass, M-A-2-S, Hysteria.
Et S comme sécurité, sécurité routière, ça fait longtemps.
Oh là là.
Oh là là, ils ont mal à la
bien. J'adore quand tu dis sans transition.
Ouais, c'est voilà.
Mais je l'ai pas dit cette fois-ci.
Non, non, c'est pour ça. Et en plus, t'as fait une belle transition là, le S de Massisteria pour sécurité routière.
En plus, il y a deux S comme SS. Ça, je voudrais pas.
Non, c'est vrai.
Ils m'ont cassé tout mon effet. Si vous voulez écrire pour vous plaindre en disant qu'ils font que se moquer de l'animatrice, vous pouvez le faire sur les
guillemets. N'hésitez pas.
Tout attaché au pluriel. @fruits.fr.
Alors si on ne reçoit rien par contre la semaine prochaine, je te le dis d'entrée, ça on va te le dire.
Moi, je propose que nous fassions un jacinton.
Oui, un jacinton aussi, c'est mérité.
Voilà. Et vous avez fait le adaoton hein, avant les vacances de Noël.
On n'a rien touché d'ailleurs.
Rien.
Pas des gangs.
Soyons sérieux maintenant parce que nous avons qu'une heure d'émission et que on va pas arriver à tout dire.
On n'a plus que 15 minutes.
Donc on parlait effectivement sécurité routière et si on y vient. Et il se passe des choses à la Fédé en ce moment. Tiens, ça faisait longtemps. Avec quelques communiqués de presse et il se lance quand même dans un gros morceau. Ça fait longtemps qu'on en parle à la Fédé, que les motards le réclament. Mais là,
que des motards le réclament, effectivement.
Oui, plein de motards le réclament. Ouais. Ils ont raison.
Bah, et là, enfin, plein, hein.
Enfin, on prend le sujet à bras le corps, hein.
Disons que
c'est
faut pas voir ça comme un refus de d'écouter en fait les motards. Il faut plutôt voir que le dossier sur le débridage est vraiment très complexe en France, si tu veux. C'est un truc qui est dans les esprits. C'est la vitesse est vraiment associée aux chevaux. Il y a que si on te laisse prendre tes 160 chevaux, ça veut dire que tu vas rouler trop vite. Et comme en France, la vitesse est aussi liée à l'accidentologie, et ben comme on veut pas que les gens roulent vite, on dégringole et voilà.
Et là, pourquoi ils font pas des Porsche à 50 chevaux? C'est une question.
Tout à fait, ça c'est l'autre
bonne
débat.
Remarque.
Parce que tout simplement, le lobbying auto est beaucoup plus puissant que le lobbying moto.
Bah, c'est-à-dire que Motobécane et Peugeot, ils ont du mal à lutter. Hein. Non, mais on parle des marques, de ceux qui vendent.
Justement.
Donc voilà, le dossier est très difficile. Ça fait des années que les motards gueulent pour qu'on puisse enfin avoir des motos normales, je dirais, puisque la normalité, c'est pas d'être à 100 chevaux. La normalité, c'est d'être...
Libre.
Libre.
Oui.
Hein, et d'être dans les normes du constructeur qui a prévu sa moto pour rouler à telle
puissance. Bah, l'ingénieur, quand il fabrique un moteur, il pense pas qu'il y a un pays qui va aller lui mettre 100 chevaux.
Surtout qu'on est le seul.
Ouais. Donc,
voilà, exactement.
Qu'il soit français ou...
La France est le seul pays d'Europe à
appliquer
ça. Du monde.
Et du monde. Mais là, ça concerne...
Du monde libre.
Alors voilà. Donc ça me permet d'arriver où je voulais en venir, c'est que...
Sans transition.
Non, mais c'est ça. C'est peut-être le seul pays au monde, mais là, en fait, le seul moyen que l'on a de lutter contre ça, et c'est pour ça que la FFMC le fait maintenant, c'est que elle va être obligée de céder de l'Europe pour faire bouger les choses.
Mais... C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu voter la Constitution européenne, c'est pour pas qu'on passe en foule.
Je sais pas si vous...
Ça y est, je le sais, c'est un complot.
Tu te rappelles en quelle année ça a eu lieu, le bridage des véhicules à 100 chevaux?
86.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est à l'époque qu'il y avait encore le A1, A2, A3, en fait. Et dès ce jour-là, on n'était pas conforme au reste des autres pays européens.
Donc, voilà.
Dès ce jour-là, on disait déjà à l'époque, moi je m'en rappelle avoir entendu, parce qu'à cette époque je faisais partie de la FFMC, avoir entendu dire, oui, mais on va profiter de ça parce que cette loi, elle est anti, elle est à l'inverse des autres pays européens, donc profitons de l'unité européenne. Tu vois, bon,
déjà,
c'est
à peu près, on disait ça, voilà.
On va faire une unité européenne.
Qu'est-ce que j'ai là? En fait, si tu veux, j'ai un communiqué de presse de la FFMC qui.
Marc, on n'est pas pressé, hein, je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais.
Ça sera peut-être électrique d'ici là.
Qui sait? Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la FFMC lance son appel à la mobilisation sur ce thème-là de la limitation des 100 chevaux. En disant quoi? En disant que, bah, justement, ils vont porter plainte au niveau européen sur cette histoire de limitation, parce que on n'est pas dans le règlement européen en France. Ça porte atteinte. Le seul truc sur lequel ils peuvent gueuler, c'est que la France est
pas conforme aux autres législations.
Au règlement européen. On part de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'on paye des pénalités tous les ans. C'est-à-dire nos impôts servent à payer le fait que la France fasse le choix qu'on ne soit en sans-chevaux. Voilà.
Elle ne paye ça seulement si on se plaint.
Plaignons-nous.
C'est pas par défaut, en fait, si tu veux.
Oui.
Voilà. Et donc c'est pour ça que la FFMC se lance dans la plainte. Mais alors le moyen de le faire dans un
sans-chevaux pour aller porter plainte, ça fait chier quand même.
Il va falloir que tu y arrives.
Voilà. En dehors du fait qu'on soit pas conforme, c'est non seulement on n'est pas conforme, mais en plus on porte atteinte, si tu veux, à la liberté de déplacement des biens. C'est-à-dire que si tu achètes ta moto en Suisse ou en Angleterre, tu n'as pas le droit de venir la ramener en France. Donc normalement les autres pays, alors peut-être que je sais pas si ça a été fait, faudrait que je me renseigne là-dessus, mais les constructeurs qui font des motos pour les autres pays sont aussi dégoûtés que leurs motos puissent pas être achetées par les Français. Tu vois. Donc voilà, donc c'est un autre point important.
Bah c'est vrai que sur des régions frontalières, ça peut être un problème pour un concessionnaire qui est installé juste.
On le fait bien pour les voitures. Hein. Oui. Certains vont acheter leur voiture en Espagne et reviennent.
Bah, c'est la libre circulation des biens. Hein.
Ça pose pas de problème pour les voitures.
Européens.
Donc c'est vraiment étonnant.
Sauf avec l'Angleterre.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Oui.
Non, mais bon, de toute façon, il y a deux.
Eux, ils ont leur spécificité aussi. Et en plus, ils ne font pas totalement partie de l'Europe.
Les motos flottent mal, en plus. C'est chiant à ramener.
Bon.
Alors il y a deux moyens que ils se sont accordés sur deux méthodes là récemment, c'est-à-dire que pour l'instant ils veulent mobiliser le plus de gens possible et montrer à l'État que les motards se mobilisent. Donc là ils demandent à ce que tous les motards diffusent, remplissent, signent une plainte dirigée contre l'État français qui ira au niveau européen. Alors, je vais vous donner l'adresse là, mais si vous allez sur le site de la FFMC, vous allez trouver toutes les informations et la lettre de plainte qui suffit d'imprimer et d'envoyer à l'adresse indiquée. Donc, ça s'est adressé au secrétariat national, 35 bis rue des Messiers, à Montreuil-sous-Bois, dans le 93 100. Voilà, donc toutes les plaintes seront regroupées et envoyées au niveau européen.
Ah, c'est plutôt bien pour une fois qu'on peut être solidaire pour un truc utile.
C'est utile, bon, certains. Enfin, je veux dire,
qu'on soit contre, ça va à l'encontre de nos libertés de toute façon.
Pour
moi je serais pour. Alors, je vais vous lire. Pas avec plus de sages-chevaux.
Voilà, on arrive à ça, c'est que je vais vous lire la conclusion du communiqué de presse qui exprime tout à fait ce qu'on est en train de dire là. Bien sûr, rien n'est gagné d'avance, mais il est important de montrer au pouvoir public que nous sommes une communauté forte et solidaire qui défend les valeurs et des principes. Jusque là, c'est les souhaits de base de la FFMC. Hein. Ce combat est avant tout une lutte pour des principes. C'est pas pour pouvoir.
C'est pas pour avoir 200 chevaux sur toutes les motos, c'est sûr.
Nous ne rêvons pas tous de rouler sur la dernière sportive à la mode affichant 160 chevaux, mais nous souhaitons tous avoir le droit de le faire, juste par principe. Nous devons également avoir le droit de faire jouer la concurrence et d'aller acheter notre moto dans un autre état, sans ensuite devoir affronter un parcours du combattant pour la faire immatriculer.
Ouais.
Voilà.
Rien que pour ça déjà. Hein.
Donc, pour plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site de la FFMC, voir si vous êtes d'accord avec le principe et imprimer cette lettre et l'envoyer là où il faut.
Surtout en plus, il y a des motos pour lesquelles c'est ultra limite, parce que les motos qui sont à 110 chevaux, par exemple, qui sont bridées donc à 100 chevaux, constructeur juste pour la phrase, il fait quoi? Il limite l'ouverture du carburant.
Elles sont vraiment.
Et elles sont réellement parce qu'ils n'ont pas le choix pour les entrées. Mais honnêtement, c'est catastrophique. Et puis la moto en performance.
Concrètement, c'est 106, pas 100 chevaux.
Oui, c'est 106 à la roue et ça dépend de ta transmission.
Non, c'est 106 sorties de boîte, en SAE. Ouais. Tu sais, c'est la différence entre les DIN et les SAE. DIN, c'est Deutsch Industrie Normalen.
Pour la SAE, partie non, technique, on fera une rubrique.
C'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi. Il y a des gens qui te disent, oh, mais j'ai acheté une moto, elle fait 108 chevaux. Et ben non, elle fait pas 108 chevaux. Donc, DIN, Deutsch Industrie Normalen, c'est-à-dire que c'est ce qu'utilise en fait la France, la norme allemande, qui est prise à la roue arrière.
Voilà.
Tu mets la moto sur des rouleaux, tu regardes combien de chevaux elle fait. Et les Japonais et presque tous les fabricants de motos, quand ils mettent les plaquettes pour te la vendre, ils utilisent la SAE, c'est Service Énergie Américaine. C'est en fait la norme, une norme américaine qui est calculée sur la sortie de Villebrequin. Voilà. C'est-à-dire que t'enlèves l'alternateur, t'enlèves quand même pas mal de bricoles. Et ça va entre 10 et 15% d'écart entre les deux. Quand t'as une moto à cardan, par exemple, qui est une grosse dévoreuse de chevaux, le cardan, ça mange des chevaux, t'as une moto à cardan qui fait 100 chevaux, ça veut dire que si tu vas au bout du Villebrequin le chercher, bon, ça dépend des motos, mais si tu vas aller chercher au bout du Villebrequin, t'as une moto qui fait 115-120 chevaux. C'est énorme. Et après, bon, donc en France, ils ont choisi la norme allemande, puisque c'est celle qui est utilisée couramment. Mais dans les docks des fabricants, c'est toujours la norme japonaise, américaine.
Ouais, la plus intéressante.
Non, la plus intéressante au niveau
commercial.
Au niveau commercial, voilà.
Oui, parce que honnêtement, c'est vrai, il y a des fois 170 chevaux, la différence, il faut la chercher.
À ce niveau-là, c'est pas énorme. On finit la rubrique actu avec un petit point sur le permis de conduire, justement, qui est un sujet sur la table de l'Union européenne depuis pas mal d'années. Et là, la nouvelle directive européenne sur le permis de conduire moto vient d'être adoptée. Enfin, vient. C'était le 14 décembre dernier quand même, donc ça date pas d'avant-hier. Et elle va... La nouveauté, c'est qu'elle va introduire la limitation à 47 chevaux et non plus 34, ce qui est une avancée intéressante puisqu'elle correspond un petit peu plus à
la réalité qui a de conduite, surtout.
D'une part, mais...
Les 34 chevaux vont faire quoi? Tu vas leur enfourrer à qui?
Mais par contre, la limite d'âge sera de 24 ans. Et non 21.
Trop bien.
Donc il faudra avoir plus de 24 ans pour avoir l'accès direct.
Plus que les vieux qui ont des chevaux.
Sachant que ce n'est pas tout, cette directive introduit 4 catégories de permis de conduire.
Ah.
Alors aujourd'hui, on a schématiquement le A1, permis 125 qu'on peut avoir à partir de 16 ans. Ensuite, le
16 ans ou 17 ans ?
16. Le restrictif, donc limité à 34 chevaux entre 18 et 21. Et l'accès direct à partir de 21.
Ça en rajoute un, là.
Voilà. Donc là, on se retrouve avec 4 catégories. Bon, alors, ils nous la font bien. Le AM, permis mobilette.
Permis mobilette.
Ah, oui. Le
BSR.
Permis 125. Oui, mais ça devient du permis mobilette.
C'est plutôt pas mal, parce que jusqu'à présent, c'était un peu du grand n'importe quoi aussi. Hein.
Le A2, donc, les motos de moins de 47 chevaux. Et ensuite, le A, toute cylindrée. Oh. Par contre, la grosse différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez passé votre restrictif à moins de 21 ans. Vous avez l'accès direct automatiquement à partir de 2 ans d'expérience. Vous n'avez pas besoin de repasser
maintenant,
par l'auto-école.
Il faudra attendre 24 ans.
Tandis que là, pour avoir l'accès au permis A, il sera conditionné à 2 ans de détention du permis A2. Et au suivi de soit une formation, soit un examen supplémentaire pour avoir l'accès direct.
C'est plutôt pas mal, ça permet de contrôler aussi. Pour une fois, quelque chose qui est plutôt... Je trouve pas que ça aille vraiment dans le mauvais sens, ça, pour une fois.
Bah moi, je suis pas sûr.
Il faut voir comment ça va être appliqué après sur le terrain.
Sur la fin, un peu lourd quand même.
Ouais. Sur la fin, c'est un peu lourd, mais le fait qu'on contrôle au bout de deux ans, que tu saches un peu te servir de ta moto, et c'est juste du contrôle, ça dépend comment c'est fait. C'est plutôt assez intéressant.
Je suis pas très d'accord parce que ça part de la même idée de dire que les motos de plus de 100 chevaux, c'est dangereux. C'est le même principe.
Exactement.
Un peu, si
et puis, bon, ça va limiter aussi la possibilité à certains de le faire.
Non, moi, c'était pas tellement par rapport au fait. Parce que là, moi, j'aurais même pas installé pour toute catégorie-là, je l'aurais installé.
Là, il le joue sur le truc sécurité en disant, oui, fait plus de sécurité.
Ça, c'est le moins de 47 chevaux. C'est ça qui gêne. Mais le fait de contrôler au bout de 2 ans, tes capacités, voir comment ça se passe. Je trouve ça plutôt intéressant.
Oui, mais c'est un truc qui va être fait, donc ça veut dire qu'il va falloir prendre du temps pour les gens qui travaillent. Ça va falloir sûrement payer parce qu'il y a peu de chances que ça soit gratuit.
Ah oui.
Tu vois, tout ça, c'est quand même
c'est quoi l'idée? En fait, si tu veux, les limitations, c'est dommage qu'ils aient parlé en termes de chevaux et pas en termes de cylindrée. Moi, je dirais plutôt.
Alors, en termes de cylindrée,
ça veut rien dire.
Mais il fallait trouver, enfin, soit tu choisis.
La 850 R de chez BM existe en 34 chevaux, ça va très bien comme machine.
Ouais.
Et si t'as besoin de faire un peu de route,
libre, elle fait que 2 chevaux de plus. Non,
non, mais c'est une très bonne machine qui est très équilibrée. Si t'as besoin de faire de la route, elle va être très adaptée à une utilisation, par exemple, elle existe en RT comme ça, pour faire de la route, pour quelqu'un qui a réellement besoin de se déplacer avec son véhicule, faire beaucoup de bornes, c'est une machine qui va être très adaptée, même si elle est en petite puissance,
non, mais
son gros coffre va te permettre de faire des bornes.
T'es obligé de trouver un élément qui te permette de limiter, parce que tu sais très bien que quand tu viens d'avoir ton permis, tu peux pas monter sur sur un 1000 à 100. Mais non, mais tu peux le faire. Mais c'est complètement idiot. C'est...
Le débat est lancé. Apparemment, il sera lancé sur lesguidons.
Les chiffres n'ont pas baissé.
Free.fr, après le morceau de musique.
Les chiffres n'ont pas baissé quand ils ont décidé de faire le permis à 1, à 2, à 3.
Bien sûr que non.
Ils n'ont pas baissé quand ils ont décidé de mettre les motos à 34 chevaux. Ça n'a pas changé le nombre de tués. Donc, tu vois, je veux dire, quelque part, moi, je suis peut-être vieux, mais je viens d'une époque où les motos étaient dangereuses et le sexe était facile. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le sexe qui est dangereux et la moto qui va être
utilisée. C'est dangereux aussi. Parce que je rassure les gamins, quand ils ont moins de 21 ans, le premier truc qu'ils font quand ils ont une 34 chevaux, ils arrachent.
Ben oui, non.
Ils arrachent la bride.
Et puis, de toute façon, c'est entre 14 et 20 que tu prends des risques. Donc, t'es même plus touché par ces lois. Donc, c'est le problème, peut-être, c'est effectivement l'accès à la mobylette. Où là, à 14 ans, il y a quelque chose peut-être à faire.
Il y a un manque de formation.
Parce que BSR, ça reste peut-être un peu...
Manque de formation quand même, de toute façon, sur le code de la route, sur la façon d'utiliser un deux-roues, même s'il y en a qui sont doués, il y en a qui ne sont pas doués du tout, et c'est pas naturel, ça arrive pas comme ça. Et il y a des apprentissages et des automatismes à acquérir. Donc c'est plutôt pas mal sur ce cadre-là.
En tout cas, c'est un sujet qui fera toujours parler, ça on en est sûr, et on y reviendra. Mais en attendant, on va se faire une petite pause musicale.
Bah, on va réessayer, Mademoiselle K, grimper tout là-haut.
droit de déguisement de l'info. Et avant de passer la parole à Philippe pour cette fin d'émission, je tenais à lancer ce petit appel que beaucoup d'entre vous ont déjà eu par mail, par le biais d'Internet. L'Alliance pour la planète lance un appel simple à tous les citoyens. 5 minutes de répit pour la planète. Donc demain, tout le monde éteint veille et lumière le 1er février 2007 entre 19h55 et 20h. Donc 5 minutes dans le noir. L'objectif n'étant pas d'économiser de l'énergie, mais simplement de faire une action qui d'une ampleur importante pour que les candidats à la présidentielle prennent en compte le changement climatique dans leur débat politique. Et en tant qu'écolo, je crois que c'est quelque chose qui tient à cœur. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Et demain, entre 19h55 et 20h, je serai dans le noir. Philippe, c'est à toi.
Moi, je serai pas dans le noir.
Tu seras pas dans le noir ?
Non, mais non, le problème, c'est que ça coûte cher à EDF, parce que si jamais vraiment tout le monde le fait, ils sont obligés de mettre en place des systèmes de régulation.
Oui, parce qu'ils vont se produire, donc nous, on est alimenté par Golfech. Je pense pas que ça soit super bien qu'elles se mettent en surtension, mais bon.
Non, mais une bonne nouvelle venant de chez Voxant ?
Oui, alors Voxant, suite à l'injection de capitaux chinois,
renaît de Voxant aux yeux bridés.
Ouais, renaît de ses cendres, tel un phénix.
Deux fois quand même, l'Ernest.
Ouais, c'est bien. Mais, enfin, ils ont jamais fermé réellement, hein. Ils ont réduit, ils ont sorti quand même des motos entre temps. Moi, je les trouve plutôt pas mal, leurs motos, donc, et puis elles sont françaises, elles ont pas trop de soutien des politiques, donc ça serait plutôt pas mal qu'on fasse quelque chose. Donc c'est, le distributeur, ça sera fait par Sidam. C'est un spécialiste de la moto qui va vraiment se mettre à faire la distribution européenne cette fois-ci. Et donc, il compte réellement investir l'Europe en entier. Et il pense, fin 2007, avoir déjà 200 concessionnaires sur l'Europe entière. Donc, ils vont en Italie, ils vont vraiment dans tous les pays où la motopassion est assez importante. Et c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle, moi, je trouve. Ils vont nous sortir logiquement 4 nouveaux modèles cette année. Donc, vont revisiter certains anciens qui sont plus vraiment au goût du jour et nous ressortir des motos aussi avec une plus petite cylindrée. Le moteur est à l'étude en 750 cm3 probablement, bicylindre toujours, mais pour avoir une moto plus abordable. Et ils veulent réellement arriver, toujours garder une image de avec des motos haut de gamme, mais aussi avoir des motos qui, que tout un chacun puisse se payer. Parce que des motos à plus de 15 000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je trouve que c'est plutôt
surtout
pas mal.
Surtout quand elle reste longtemps chez le concessionnaire.
Ouais, ils restent longtemps, parce que ce sont pas souvent en panne, quand même. Si, t'as des mauvais retours sur ces motos?
Ah, ben moi j'ai travaillé chez le concessionnaire, oui.
Oui?
Oui. Mmh. Moi-même chinois, je pense que j'achèterai une autre marque.
Ah, ouais, d'accord. Mmh.
Bon, c'est vrai qu'il y a eu plein de problèmes financiers qui arrangent pas l'histoire, mais bon, quand même, il y a des problèmes de conception aussi, et mais c'est plus compliqué.
Ouais, mais le champion de France, iCambing, utilise un moteur Voxant, un proto d'ailleurs, il viendra en parler.
Mais c'est pas grave parce qu'il en a besoin que d'une fois. Ceci étant, c'est un sujet qui est important et intéressant pour tous les auditeurs qui nous écoutent français. Un Voxant quand même. Donc on se le garde pour des prochaines émissions.
Oui,
on continuera à en parler.
Et oui. Ah, mais je continuerai à parler de Voxant.
On arrive au bout. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve même endroit, même heure, mercredi prochain.
Même punition.
Bye bye. Bye.